Les colloques du Collège de France.
Donc, comme l'a dit Nathalie, mon rôle, c'est de parler, voilà, de faire celui qui n'y connaît rien, ou d'être celui qui n'y connaît rien, plus exactement, sur ces deux présentations, puisque je ne suis ni économiste ni sociologue. Et donc, pour commenter ces deux, ou réagir à ces deux présentations, j'ai comme unique choix de le faire en tant que épidémiologiste social, puisque c'est ma discipline. Et donc, voilà, pour décrire un petit peu ce que fait un épidémiologiste social, c'est d'essayer de comprendre la construction des inégalités sociales en utilisant des approches épidémiologiques et des théories qui peuvent d'ailleurs s'inscrire ou venir de la sociologie, et des approches, je dirais, quantitatives qui peuvent aussi être partagées avec nos collègues économistes. Donc, pour commencer ce propos, je vais juste réagir sur ce que le professeur O'Donnell a appelé le usual narrative. Et donc, je voulais revenir sur ces deux termes. Donc, le premier point, c'était que, effectivement, on dit souvent que les inégalités sociales, elles sont présentes, persistantes, elles sont partout. Je dirais que c'est vrai. Je dirais que pour moi, c'est vrai en tant que, par rapport à ma discipline, elles sont effectivement très persistantes et effectivement substantielles, puisqu'on les retrouve dans de nombreuses pathologies chroniques. Pour être très honnête avec vous, c'est vraiment rare de trouver une pathologie dans laquelle aucun gradient social n'est observé, qu'il aille dans un sens ou dans un autre. Et je pense qu'effectivement, c'est ubiquitaire au sens où c'est partout. Et j'en veux pour preuve que l'épidémie qu'on a connue en 2020 s'est caractérisée par des inégalités sociales fortes, d'incidence, de forme sévère, de mortalité, alors même qu'elle n'existait pas il y a 5 ans, elle est apparue, et on a observé les gradients sociaux qu'on a l'habitude de voir sur d'autres pathologies. Donc pour moi, effectivement, ce narratif, il est vrai, il est correct, en tout cas je l'utilise. Le deuxième point du narratif, c'était de dire que pour réduire ces inégalités, et donc pour résoudre un problème, il faut en connaître les causes. Je suis partiellement d'accord avec cette phrase. Je pense qu'effectivement, c'est important de connaître les causes d'un problème si on veut pouvoir le résoudre. Et je pense que les inégalités sociales sont un problème. On est tous, je crois, d'accord sur ce que j'ai vu des présentations et entendu. Par contre, là où je rejoins un petit peu le propos qui a été donné par le professeur O'Donnell, c'est que c'est pas suffisant. C'est pas suffisant de connaître les problèmes. On a besoin de tester des solutions. On a besoin de tester des interventions. Et ces solutions, elles peuvent invoquer des mécanismes qui sont des mécanismes différents que ceux qui ont été identifiés pour identifier le problème. Et donc ça, c'est un petit peu ce que la distinction que fait notre collègue Louise Potvin quand elle parle de science des solutions versus science des problèmes. On identifie des problèmes beaucoup en épidémiologie. C'est pas parce qu'on a identifié un problème qu'on a identifié des solutions. Si je prends un exemple, si j'essaye de prendre un exemple pour illustrer ce propos, c'est par exemple sur le tabac. L'épidémiologie a participé comme toute discipline à montrer que le tabac était un facteur de risque majeur de beaucoup de cancers. Mais c'est pas parce que j'ai identifié le tabac comme étant un facteur de risque que je dis quelque chose d'intelligent sur comment on arrête de fumer et comment on arrête de fumer de manière différente en fonction des groupes sociaux. C'est deux questions différentes qui font appel à des mécanismes différents, à des méthodologies qui peuvent être également différentes. Et donc cette idée qui vient de la médecine, que parce qu'on a identifié le problème, il suffit de supprimer le problème comme on le fait quand on voit un récepteur dans une souris qu'on l'enlève, c'est une erreur d'imaginer cette approche dans le champ de la santé publique. Et je pense que c'est important de l'avoir en tête quand on parle d'inégalité sociale de santé. Ça m'amène à un point qui est fondamental, que j'ai trouvé vraiment important et je dirais cohérent avec vos deux présentations, c'est celle de la causalité. Alors c'est une grande question, je ne vais pas la régler aujourd'hui, je vais juste donner mon avis par rapport à ce point-là. En tant qu'épidémiologiste social, je considère vraiment comme un fait scientifique que les conditions sociales sont les causes fondamentales des inégalités sociales de santé. Je pense que vraiment, quand on reprend ces deux présentations, je pense que la position socio-économique, elle a un rôle causal, fondamental sur l'état de santé. Et donc, ça interroge sur ce qu'on met derrière cette notion de causalité. Et pour ce point, je rejoins la présentation qui a été faite par le professeur Schim sur ce concept de fundamental causality. Je pense vraiment, enfin en tout cas je me retrouve vraiment dans cette notion de causalité fondamentale quand on parle des conditions sociales, de surcroît pendant l'enfance, pour expliquer l'état de santé des populations à l'âge adulte. J'en veux pour preuve qu'il y a énormément de littérature, vraiment, hein, on peut choisir des papiers avec des méthodologies qui nous vont bien, etc., mais il y a énormément de littérature dans le champ de l'épidémiologie sociale, mais pas que, qui ont montré un lien entre environnement social, notamment précoce, et la santé, y compris le fonctionnement biologique, j'y reviendrai, y compris des choses qui s'inscrivent dans notre corps de manière, je dirais, biologique et très très à l'intérieur du corps. Et effectivement, ça implique, comme vous l'avez dit, des mécanismes matérialistes, des expositions matérialistes, des expositions comportementales et des expositions psychosociales, ça effectivement on s'y retrouve, et aussi effectivement des éléments qui sont liés à l'accès accès aux soins. Ces associations, si j'utilise purement le terme statistique, elles ont été retrouvées dans différents pays, dans différents contextes, avec différentes méthodologies, avec différentes données, avec différentes approches. Et moi, je crois que ça, c'est un gage de certitude, si on peut utiliser ces termes en science, je me méfie, hein, mais plus on a d'approches différentes, plus on a des résultats stables et robustes en différents contextes, quand on les approche de manière différente, et plus je pense qu'on peut avoir confiance en ces résultats. C'est effectivement ce qu'on appelle la triangulation, ces approches qui ont combiné différentes méthodologies. Et honnêtement, quand on regarde la littérature, il y a énormément de résultats cohérents qui montrent ce lien. Et un résultat pour moi important dans le champ de l'épidémiologie sociale, c'est que ce lien entre milieu social, pour faire très large, et santé, il est observé dans des études de cohorte de naissance. Vous avez parlé, monsieur O'Donnell, du fait que ça prend du temps pour pouvoir montrer des résultats, ce qui est vrai. Mais on a quand même la chance d'avoir dans certains pays, alors pas la France, c'était une parenthèse, des cohortes de naissance très anciennes qui nous permettent d'avoir les suivis sur 50, 60 ans. Et donc on peut, elles ont des limites, ces cohortes, mais on peut lier des expositions très précoces avec des résultats de santé tardifs. Et ça a comme avantage, quand on discute avec nos collègues économistes, qui souvent nous opposent la causalité inverse. La causalité inverse, c'est quoi? C'est que ce n'est pas la position sociale qui joue sur la santé, mais la santé qui joue sur la position sociale, comme ça a été évoqué et démontré dans la première présentation. Mais quand on utilise des cohortes de naissance, dans lesquelles on a des enfants dès la conception, et on va pouvoir observer ce qui se passe dans la vie, on est dans des situations où on contrôle un peu mieux, même si ce n'est pas totalement, ce risque. Donc je pense vraiment qu'avec cette littérature, on a de quoi, en tout cas dans notre champ, assumer le fait qu'il y a un lien causal entre position sociale et santé. Certains de ces travaux utilisent des approches causales. Nous, dans l'équipe, on utilise des approches causales, qui sont des approches qu'on utilise en économie aussi, mais qu'on utilise effectivement des approches mathématiques qui se veulent être causales. Mais dans notre causalité, on approche cette problématique avec des chaînes complexes de causalité. Et en fait, il me semble aussi que c'est un point important. Ça peut faire écho d'ailleurs avec ce que disait professeur Chim sur le social Bucky Bowles, le fait qu'on a plusieurs facteurs qui sont interconnectés, qui sont liés, avec un facteur A qui va jouer sur un facteur B, qui va jouer sur un facteur C. Et en fait, ce type de causalité, ce n'est pas celle qu'on a appris quand on était en épidémiologie ou en recherche clinique, ou même en économie, je crois, où on a cette idée de causalité directe. Directe, c'est vraiment une flèche entre deux variables. Et en fait, quand on fait des inégalités sociales de santé, ça a été dit, on peut avoir la classe sociale d'un individu qui va jouer sur ses comportements, qui eux-mêmes vont jouer par exemple sur l'état de santé. Les comportements comme le niveau socio-économique sont des causes. Elles sont juste pas au même niveau, c'est juste pas le même maillon de la chaîne, mais ce sont pour moi des causes. Et donc je pense que c'est intéressant de se poser la question de ce qu'on appelle la causalité et d'essayer un peu, je dirais, de s'éloigner de cette causalité qu'on a en médecine. En épidémiologie, on essaye des fois de coller aux essais contrôlés randomisés. Vous avez montré des exemples d'essais contrôlés randomisés. On essaye par exemple de contrôler sur les gènes pour essayer d'expliquer les inégalités sociales de santé. On utilise des approches qu'on approche randomisation mendélienne par exemple, mais peu importe, on essaye peu importe le terme, c'est pour vous dire qu'on essaye vraiment d'avoir des approches qui sont considérées comme étant des approches causales de très bonne qualité. Et en fait, quand on regarde les résultats, on voit que les résultats ne sont pas incohérents, et surtout, ces résultats ont des limites, particulièrement quand on veut s'intéresser aux inégalités sociales, où vous vous doutez bien que trouver un gène associé au niveau d'éducation, ou des gènes associés au niveau d'éducation, ou à la richesse, ça a peu de sens. Et donc, en fait, je reste sur ma fin, sur ce questionnement de causalité. Je pense qu'entre disciplines, on n'a pas la même façon de voir la causalité, que ça peut expliquer des positionnements différents par rapport à cette relation entre position sociale et finalement santé. Vraiment, par exemple, je donne un exemple, on travaille beaucoup sur le niveau d'éducation, et quand on regarde la littérature sur est-ce que le niveau d'éducation est lié avec l'état de santé, ben, quand on essaye d'utiliser des données, des approches très très causales où on contrôle sur les gènes, hein, les scores polygéniques où on met 1000 gènes ensemble qui, a priori, prédisent le niveau d'éducation, vous expliquez au bas mot, au mieux, 10% de la variabilité, ce qui est bien moins que le niveau d'éducation de la mère, qui va expliquer le niveau d'éducation de l'enfant par plein de mécanismes différents, mais dans une part beaucoup plus importante que ces fameux 10%. Et vous l'avez aussi dit, la cognition, la préférence du temps sont aussi des éléments importants, mais ne sont pas pour moi des facteurs de confusion, mais plutôt des facteurs de médiation. C'est des facteurs qui vont expliquer comment le niveau d'éducation va jouer sur l'état de santé. Et donc là aussi, finalement, quand on commence à déconstruire ces modèles, ben finalement, on se retrouve, à mon avis, assez proche sur ce qu'on pourrait dire de la causalité du lien entre position socio-économique et santé. Mais c'est clair qu'on ne connaît pas tout, ça je suis complètement d'accord, particulièrement sur les mécanismes qui peuvent lier vraiment la position sociale aux positions socio-économiques et la santé. Je vous ai donné l'exemple de l'éducation, ça fait longtemps qu'avec Michel, on travaille sur ces liens entre éducation et santé. On n'arrive pas à expliquer la totalité du lien, on est bien loin d'expliquer cette totalité du lien. On met les comportements dans les modèles, on met le niveau social à l'âge adulte, on met certaines mesures de santé mentale, on n'explique pas la totalité de ce lien, on est bien loin de l'expliquer. Peut-être qu'effectivement, le capital culturel en santé est un des éléments qui pourrait venir expliquer une partie de ce lien. Voilà, ça fait écho à des recherches que l'on pourrait mener. Je pense aussi qu'il y a des recherches à mener sur l'incorporation biologique. Nathalie en a parlé, particulièrement dans ces murs qui ont vu Claude Bernard, qui est considéré comme étant un des fondateurs de la médecine expérimentale et de la physiologie. C'est important de rappeler que le milieu intérieur, il est conditionné, déterminé par le milieu extérieur. Et que donc la biologie, le fonctionnement biologique est déterminé par le milieu extérieur et en donc la position sociale. Et que donc il n'y a pas d'un côté le social et la biologie, mais il y a une intrication et que le fonctionnement biologique est déterminé par le social et que donc il faut étudier le social quand on s'intéresse à la biologie. Et donc pour terminer, il me semble qu'un point qui a était moins évoqué dans les deux présentations, c'est celle de l'intervention, même si le professeur O'Donnell en a parlé. Je vous rejoins sur le fait qu'on n'a pas besoin de plus pour intervenir. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'on travaille plus sur les mécanismes, mais on a déjà suffisamment de connaissances pour pouvoir mener des actions. Et je crois qu'on peut faire quelque chose. Souvent, dans notre domaine, et Michel, on nous dit, mais c'est bien, c'est sûr que c'est mieux d'être jeune, riche et en bonne santé que d'être pauvre, vieux et en mauvaise santé. C'est souvent ça qu'on nous oppose quand on travaille sur nos inégalités. Et l'implicite, c'est qu'on peut rien y faire. On peut faire des choses. Si vous pensez à des situations assez macro, il y a eu des politiques d'austérité dont on a bien montré l'impact sur la santé quelques mois ou quelques années après. Donc on sait très bien que quand on change des choses au niveau politique, on peut agir sur la santé. Je vais vous prendre deux exemples un petit peu provocants, je le fais exprès, hein, mais depuis 20 ans, en France, on a fait grossir tout le monde. Pas de la même façon. Plus dans les milieux sociaux moins favorisés, mais on a fait grossir tout le monde. Si je m'intéresse au tabac, on a réduit la consommation de tabac en moyenne, mais plus dans les milieux sociaux qui sont favorisés. Et donc finalement, on a aggravé les inégalités sociales d'obésité et de tabagisme sur les 20 dernières années en France. Donc on est capable d'agir sur le réel. Le seul problème, c'est que ce n'est pas comme ça qu'on aurait voulu agir, ou en tout cas dans ce sens qu'on aurait voulu agir. Donc l'idée qui consiste à dire qu'on ne peut pas agir sur le réel est factuellement fausse. Donc je pense que c'est important de développer des interventions. On connaît déjà certains des mécanismes, même si on ne les connaît pas tous. Et je pense que pour reprendre un petit peu les interventions que vous avez proposées, moi je dirais que je serais plus intéressé par les approches d'universalisme proportionné, qui ont été proposées par Michael Marmot, cette idée qu'on doit intervenir chez tout le monde, mais pas forcément de la même façon, pas forcément avec la même intensité. Je pense que ça a plus de chances de fonctionner. Et j'ai du mal à imaginer des actions uniquement sur des populations qui seraient moins favorisées, parce que d'une part, il y a un risque de stigmatisation et de discrimination qui est bien connu et démontré, y compris en épidémiologie. Mais c'est aussi considérer que la classe, je dirais, favorisée, va rien faire en sachant qu'on n'intervient pas chez elle. Et ça, il y a des travaux qui montrent que quand on n'intervient pas dans la classe la plus favorisée, elle peut avoir tendance à se mobiliser et à finalement agir contre l'intervention qu'on avait mis en place. Donc je pense que c'est un sujet important. Et donc il me semble que développer des interventions basées sur cet universalisme proportionné doit être développé, ce qui implique de travailler avec les populations concernées, les publics concernés, et donc de partir de leurs besoins, de leurs préférences, comme vous l'avez dit, de leurs envies, qui sont à mon sens socialement construits. Donc là encore, imaginez que les contraintes dans lesquelles on met les individus, ça va conduire à des préférences et à des comportements, je suis bien d'accord. Mais en termes de causalité, on peut se poser la question de ces contraintes et de comment on pourrait jouer sur ces contraintes pour favoriser des comportements. Ça inclut de travailler avec les populations concernées, et ce sera mon dernier point, hein, c'est pas très très original pour ceux qui me connaissent. Ça nécessite d'intégrer la santé dans toute évaluation de politique publique, comme un des outcomes des politiques publiques. Et enfin, ça implique, je parle particulièrement pour la France, qu'on ait des données sociales à disposition pour pouvoir les lier avec des données de santé. Et ça, ça reste un sujet en France, même si c'est possible, ça reste compliqué. Et cette complexité fait qu'on ne peut pas mettre en place les études que l'on souhaiterait mettre quand on s'intéresse au lien entre niveau socio-économique et santé. Je m'arrête là, ça fait 15 minutes, et donc là on passe aux questions, il me semble.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.